Il y a un scénario assez terrifiant quand on y pense. Imaginez envoyer une lettre de dénonciation anonyme à la police pour signaler, je sais pas, les pratiques frauduleuses d'un concurrent féroce.
Ouais, le genre de truc qui arrive tous les jours dans le monde des affaires.
C'est ça. Sauf que là, le commissariat prend cette lettre, efface votre nom et la transmet mot pour mot, avec chaque virgule, chaque tournure de phrase, directement sur le bureau de ce fameux concurrent.
Aïe.
Voilà. L'anonymat technique est respecté. Pas de nom, pas d'adresse, mais la manière d'écrire, bah, elle hurle l'identité de l'auteur. Et c'est exactement le piège dans lequel une industrie entière est tombée tête la première en avril 2026.
C'est fou, parce que l'enthousiasme technologique, il a vraiment cette fâcheuse tendance à aveugler notre esprit critique, tu vois.
Ah oui, complètement.
Toute la presse spécialisée anglo-saxonne et puis la communauté francophone dans la foulée, ils ont célébré une mise à jour de Google comme une victoire majeure.
Genre, enfin une bonne nouvelle pour le SEO.
Exactement. Le message global, c'était de dire qu'il devenait enfin facile et sécurisé de dénoncer les sites frauduleux. Sauf que bah, l'information a été relayée sans que personne ne prenne vraiment le temps d'analyser les implications systémiques du truc.
Et c'est justement ce décalage entre la perception publique et la réalité technique qui rend la matière première de notre décryptage d'aujourd'hui si précieuse.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on plonge dans les notes de travail privées d'un consultant SEO indépendant. Donc, on parle d'un expert e-commerce avec plus de 10 ans de terrain, pas d'un théoricien.
Un vrai praticien, quoi.
Voilà. C'est pas un communiqué de presse tout lisse qu'on a là. C'est le carnet de bord d'un mec qui a vraiment disséqué les petits caractères de la nouvelle documentation de Google sur leur formulaire de signalement de spam.
Et ce qu'il a trouvé, ça remet carrément en question la définition même de la confidentialité professionnelle sur le web. La distinction fondamentale ici, c'est la différence entre l'anonymat technique et l'anonymat sémantique.
L'anonymat sémantique ?
Ouais. L'anonymat technique, c'est juste une protection informatique de base. Mais l'anonymat sémantique, c'est l'empreinte que laisse notre propre langage. Et la faille, elle est exactement dans cette zone grise.
Pour bien comprendre le bouleversement, faut vraiment regarder sous le capot. Comment marchait le formulaire Report Spam de la Search Console avant, et surtout après ce fameux 23 avril ?
En apparence, le système a l'air super robuste. Le consultant note bien que quand on soumet un rapport, Google fait un grand ménage dans les métadonnées.
Donc on est protégé informatiquement parlant.
Ouais, l'adresse email de l'expéditeur, l'adresse IP de la connexion, le nom du compte Google, tout ça, c'est purement et simplement supprimé. Donc la fuite ne vient pas des tuyaux techniques.
La compromission, elle est cachée 3 paragraphes plus bas dans la nouvelle doc officielle. C'est ça.
C'est ça. Il y a une clause qui dit que si le signalement aboutit à une action manuelle, donc si un évaluateur humain de Google décide de pénaliser le site fautif, bah, l'intégralité du texte tapé dans le champ libre est transmise au propriétaire du site sanctionné.
L'intégralité.
100%. Google appelle ça une transmission verbatim. Une restitution littérale, mot pour mot. En gros, le concurrent reçoit l'argumentaire complet de son accusateur.
J'imagine que dans l'esprit de Google, l'idée, c'est d'aider le site pénalisé à comprendre pourquoi il a été sanctionné.
Sûrement, oui.
Mais reprenons mon analogie de la lettre de dénonciation. C'est comme si on découpait méticuleusement des lettres dans un vieux magazine pour cacher son écriture.
Avec les petits gants pour pas laisser d'empreintes.
Grave, le masque technique parfait. Mais dans le texte de la lettre, tu utilises le surnom ultra intime de la personne ou tu fais référence à un repas de famille précis.
Voilà, la signature sémantique te trahit totalement.
C'est un truc de dingue. Et le plus révélateur, d'après les notes du consultant, c'est la précipitation avec laquelle Google a sorti cette mise à jour.
Ah ça, c'est fascinant. C'est une vraie investigation qu'il a menée. Il a inspecté le code source de la documentation officielle à la date du 7 mai. Et il a vu que les balises schema.org du pied de page n'avaient même pas été mises à jour.
Attends, les balises schema.org, c'est quoi exactement pour ceux qui sont moins techniques ?
C'est le code invisible pour l'humain, mais qui structure les données pour les moteurs de recherche et pour les LLM, tu sais, les intelligences artificielles. Ça les aide à comprendre le contexte de la page.
D'accord.
Et ce code, qui était obsolète, affirmait encore que Google ne prenait aucune action directe suite à ces rapports de spam.
Donc ils ont repeint la façade publique à la hâte, mais l'ancien plan de construction traînait encore dans la cave, quoi.
C'est exactement ça. Et en utilisant la Wayback Machine, le site qui archive les anciennes versions des pages web, le consultant a prouvé que l'ancienne politique était toujours en vigueur le 11 avril.
Donc la bascule s'est faite en 12 jours.
12 petits jours. Pour modifier un protocole de modération à l'échelle mondiale, c'est incroyablement rapide.
C'est clair que ça sent la panique à bord.
Ouais, ça montre une urgence opérationnelle interne évidente. Il voulait très probablement réduire drastiquement le volume de requêtes abusives qu'il recevait. Et cette urgence a créé ce que le consultant appelle une trahison par le vocabulaire.
La trahison par le vocabulaire. C'est super bien trouvé comme expression.
Ben, un professionnel du référencement, ça utilise un dialecte ultra spécifique. Donc, si tu rédiges un rapport avec ce dialecte et que ça atterrit sur le bureau d'un concurrent qui baigne aussi dans le web marketing,
bah, il te crée tout de suite.
C'est un jeu d'enfant de retrouver qui a écrit ça.
Et dans ses notes, le consultant isole 5 marqueurs lexicaux, 5 mots qui sont la garantie absolue de révéler que tu es un pro de l'industrie. Le premier sur la liste, c'est la cannibalisation.
Ouais, un terme assez fascinant d'ailleurs. C'est quand deux pages de ton propre site se battent pour le même mot-clé dans les résultats de Google.
Un internaute normal, il dirait juste un truc du genre « le site tourne en rond » ou « il me propose deux fois la même chose ».
Exactement. Rien que d'utiliser le mot « cannibalisation », ça dit direct au modérateur de Google, et donc aux concurrents ciblés, que le texte vient d'un vrai audit professionnel.
Ensuite, il y a le maillage interne. Pareil, un utilisateur classique, il navigue, il clique sur des menus.
Il va jamais parler d'une architecture de liens construite pour répartir l'autorité d'une page. C'est du vocabulaire exclusif au métier du web.
On a aussi le fameux « cloaking ». Pour vulgariser, c'est le fait de montrer une belle page super clean au robot de Google. Mais une fois que le visiteur humain clique, on lui affiche une page complètement différente, genre bourrée de pubs ou de trucs douteux.
C'est ça. Le consultant souligne aussi la « link velocity », donc la vitesse artificielle à laquelle un site gagne des liens externes pour gonfler sa popularité. Un utilisateur lambda ne surveille pas la vitesse d'acquisition des liens d'un site e-commerce, tu vois ?
Clairement pas. Et le dernier marqueur, c'est le « seen content ».
Ouais. Encore une fois, une personne mécontente dira juste « cette page est vide » ou « l'article est nul ». Mais « seen content », c'est carrément la nomenclature clinique des ingénieurs de Google.
Mais ce qui est fou, c'est que le danger va bien au-delà de ces simples mots. La structure même de nos phrases devient une vraie empreinte digitale.
Absolument.
Il y a un passage dans l'analyse qui m'a vraiment marqué. Le consultant donne un exemple de phrase. Sur les pages de collection, on observe un profil suspect avec 87% de domaines référents provenant d'extensions en point rue.
Voilà, typiquement, le simple fait de donner un ratio chiffré aussi précis, ça implique que tu as utilisé des logiciels d'analyse pro qui coûtent une fortune. Un acheteur normal, il calcule pas le pourcentage géographique des liens pendant qu'il achète ses chaussures, quoi.
C'est sûr. Et le fait de croiser plusieurs concepts techniques dans une même phrase, ça joue le même rôle d'alarme, non ?
Ah oui, le croisement, c'est fatal. Si tu écris un truc genre « la balise canonicale contredit l'architecture déclarée dans le fichier sitemap.xml », là, tu as superposé plusieurs couches d'ingénierie. Ça signale un niveau d'expertise très avancé.
Alors que le profane, il dirait juste « je cherche un produit, je clique, ça marche pas et il y a des erreurs ».
C'est ça, il reste factuel et linéaire.
Mais attends, j'ai une vraie question là-dessus. Il y a un paradoxe énorme. Pourquoi Google pénaliserait cette expertise ? Je veux dire, si j'utilise le bon jargon, que je structure ma pensée, que je pointe direct le conflit entre le sitemap et la balise, ça devrait faire gagner un temps de dingue à l'employé de Google qui lit le rapport, non ?
Mais c'est ça qui est complètement ironique. C'est une excellente question. Parce que oui, utiliser leur jargon, ça aide énormément le diagnostic en interne. L'algorithme prétrit plus vite et l'employé va droit au but.
Donc on les aide.
On devient le parfait petit assistant de Google. Mais le paradoxe, c'est le prix de cette efficacité. En leur mâchant le travail, on se sacrifie sur l'autel du verbatim.
C'est une arme à double tranchant.
Exactement. La clarté technique qu'on offre à Google se transforme en arme de désanonymisation massive dès que le rapport est transféré au fautif.
Donc, ce jargon qu'on a mis des années à maîtriser, il est devenu toxique. Et la suite logique de l'analyse du consultant, c'est comment survivre à ça. Comment tu fais un signalement assez fort pour que Google agisse sans que tes mots te trahissent ?
Bah, le consultant a développé ce qu'il appelle le protocole anti-signature. C'est une méthode très stricte en 4 étapes qui prend à peu près 15 minutes pour anonymiser sémantiquement un rapport.
Et ça demande un vrai effort mental. C'est marrant, ça m'a fait penser à l'histoire du chirurgien orthopédique qui serait témoin d'un accident de la route.
Ah oui, l'analogie est parfaite.
S'il appelle les secours et qu'il dit « on a une fracture communicative du fémur distal », au centre d'appel, ils savent direct que c'est un confrère.
C'est grillé.
Donc pour rester un simple témoin civil, il doit vraiment faire violence à son cerveau et dire un truc banal genre « la jambe est tordue au-dessus du genou et l'os a l'air cassé. L'information vitale passe, mais son identité professionnelle reste masquée. »
Et c'est exactement la gymnastique qu'impose ce protocole. La première étape, c'est de réécrire le problème en langage strictement utilisateur. Tu parles pas de cloaking, tu forces le côté descriptif, genre « le résultat sur Google me promettait un article sur les plantes, mais quand je clique, je vois que des pubs pour des casinos ».
Simple, basique.
Voilà, la deuxième étape, c'est d'interdire formellement toute annotation d'URL.
C'est-à-dire ?
Bah, le réflexe d'un référenceur, c'est de lister des adresses web et d'ajouter une analyse, genre la densité de mots-clés ou le TF-IDF de chaque page. Là, la règle, c'est de pointer du doigt bêtement. Tu donnes la liste brute, tu fais pas le travail de l'outil de Google à sa place.
D'accord, on liste comme un internaute. Et la troisième étape ?
C'est la règle d'or, des journalistes. D'écrire au lieu de déduire. En tant qu'expert, on veut toujours conclure. On veut dire « cette mécanique prouve une manipulation de l'algorithme ».
On veut montrer qu'on a compris.
C'est ça l'erreur. Le protocole oblige à rester au niveau des symptômes. Il faut commencer ses phrases par « je vois » ou « quand je clique » plutôt que par « cette architecture démontre que ».
Ah ouais, c'est subtil mais hyper puissant. Et alors la quatrième étape, le filtre ultime.
La fameuse règle du voisin.
J'adore ce concept.
C'est le filtre protecteur de 3 minutes avant de cliquer sur « envoyer ». Tu relis ton texte et tu te poses une seule question. Est-ce que mon voisin, qui n'y connaît rien en création de site web, pourrait écrire cette plainte naturellement? Si la réponse est non, tu effaces et tu recommences.
Et les notes donnent 3 cas pratiques pour illustrer tout ça. Prenons l'exemple d'un site qui fait du User Agent Switch, donc un script qui détecte si t'es un robot ou un humain, couplé à des doorway pages, des pages créées juste pour aspirer le trafic.
Ouais, une belle arnaque classique.
Le premier cas, c'est ce que le consultant appelle le rapport cramé. Celui qui est bourré de jargon, qui liste les pourcentages et qui cite carrément les règles juridiques de Google.
Ça, avec la nouvelle règle du verbatim, c'est un suicide professionnel. Le mec en face saura direct qu'il a été audité par une agence concurrente.
À l'autre extrême, on a le deuxième cas, le rapport neutre mais inefficace. Genre, ce site triche, le contenu est nul, merci de vérifier.
Alors là, l'anonymat est total. Hein. Le voisin aurait pu l'écrire, c'est sûr.
Ouais.
Mais les problèmes, c'est que ça sert à rien. Il n'y a aucune info factuelle, donc l'évaluateur de Google va juste mettre ça à la poubelle. Faut pas rêver, ils vont pas enquêter sur une plainte aussi vague.
C'est là qu'on arrive au troisième cas, le rapport opérationnel.
Exact. C'est l'équilibre parfait entre les faits et la naïveté linguistique. Ça donnerait un truc comme « En cherchant ce modèle de vélo précis, je tombe toujours sur ce site en premier. Mais la page n'a pas de texte, elle est pleine de pubs bizarres. J'ai eu le même souci sur ces 5 autres pages. Voici les liens. » On dirait que c'est juste fait pour nous faire cliquer sur des pubs.
La piste est super claire pour Google. Il y a la preuve des liens, mais l'empreinte sémantique de l'auteur est totalement invisible.
C'est brillant. Mais ça demande un effort conscient énorme.
Mais carrément, hein. C'est épuisant de devoir amputer son propre vocabulaire comme ça. Et d'ailleurs, le consultant soulève la vraie question. Si ça demande tant d'énergie, est-ce que ça vaut encore le coup de signaler chaque petite infraction de la concurrence?
Et la réponse, c'est que le signalement n'est plus un réflexe de routine. C'est devenu une gestion du risque. Il a même créé une grille de décision.
La règle d'or étant, plus le problème est facile à décrire avec des mots de tous les jours, plus on peut signaler en sécurité.
Voilà. Donc on a les feux verts, le cloaking massif, les textes cachés grossièrement, ou les spams générés par des IA complètement nuls.
Les trucs qui sautent aux yeux, quoi.
C'est ça. N'importe quel internat trouverait ça suspect. Là, le risque est faible, probabilité d'action haute.
Mais alors les feux rouges ?
Les feux rouges, c'est les trucs invisibles, genre la cannibalisation, ou si tu soupçonnes un concurrent d'utiliser un réseau privé de blogs, les fameux PBN.
Ah ouais, prouver un PBN sans utiliser de jargon, bonne chance.
C'est quasi impossible. Le risque est énorme, pour un résultat très incertain. Et il y a un feu rouge absolu d'ailleurs, hein, dénoncer un concurrent direct sur un marché local.
Ouh là là, le risque catastrophique.
Ah bah t'imagines, deux artisans sur la même petite ville, sur la même niche, si l'un dénonce l'autre et que le rapport verbatim arrive.
Même avec le protocole anti-signature, par simple déduction, le gars va savoir qui l'a balancé.
Exactement. Et dans une petite communauté régionale, être vu comme le mec qui essaie de couler ses confrères par derrière, ça détruit ta réputation. Tu perds tes partenariats, ton réseau, tout s'évapore.
Donc face à tout ça, le consultant propose 3 grands leviers stratégiques pour les agences. Plutôt que de passer son temps à fliquer les autres, il faut faire quoi ?
Bah, le premier levier, c'est l'introspection. Auditer son propre site d'abord. Faut savoir que près de 40% des sites e-commerce sont encore des résidus toxiques laissés par de vieilles agences.
Ouais, les vieux squelettes dans le placard.
C'est ça. Si tu signales un concurrent, tu invites la police de Google à inspecter tout le quartier, y compris chez toi. Vaut mieux être irréprochable.
Très juste. Et le deuxième levier ?
La diversification du trafic. Si tu es obsédé par la triche de ton concurrent sur Google, c'est souvent parce que tu dépends à 100% du trafic organique. Faut diversifier avec des newsletters, les réseaux sociaux, la pub payante. Ça te rend moins vulnérable et donc moins parano.
Et le troisième levier, c'est de protéger sa réputation. On en a parlé. Donc en résumé, l'époque où on pouvait nettoyer ses concurrents discrètement via un petit formulaire, c'est de l'histoire ancienne.
Totalement révolue.
L'anonymat technique ne nous protège plus de notre propre empreinte sémantique et la nouvelle règle du jeu, c'est vraiment de signaler parfaitement ou de pas signaler du tout.
Et tu sais, au fond, je pense que c'était le but de Google depuis le début.
Tu crois ?
Bah oui, ce passage au verbatim, c'est sûrement pas une maladresse. C'est un filtre psychologique délibéré. Ils ont instauré une friction gigantesque pour désengorger leurs équipes de modération. Ils en avaient marre de gérer les petites vengeances entre agences SEO.
Vu comme ça, c'est redoutablement intelligent.
C'est brillant. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, je suis curieux.
Si on part du principe que notre choix de mots suffit à trahir notre identité professionnelle et que les géants de la tech utilisent nos propres rapports verbatim pour nous intimider, vers quel futur on va ?
C'est vrai que ça fait réfléchir.
Est-ce qu'on arrive à un stade où, pour communiquer avec ces méga-plateformes, il va falloir développer autant de stratégies de camouflage de notre expertise que de stratégies pour notre propre métier ?
Le camouflage sémantique comme compétence vitale.
C'est ça. Et si, demain, la compétence la plus prisée d'un ingénieur en algorithmique ou d'un expert en intelligence artificielle, c'était paradoxalement l'art de se faire passer pour un parfait idiot.
Waouh, l'art de jouer à l'amateur pour survivre au système qu'on a nous-mêmes compris. C'est une super question pour clôturer ce décryptage. Il y a vraiment de quoi y réfléchir à deux fois avant de remplir le prochain formulaire en ligne.